Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ?
Tu lis la Bible, Ringo ?
Pas tous les jours.
Au large biblique.
Le podcast
qui explore la Bible.
Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous ouvrons avec cet épisode le sixième volet de notre format sur l'histoire de l'Israël biblique. Après la période grecque et le retour à la royauté juive en Judée, nous allons explorer la période romaine, débutant en l'an 63 avant notre ère et qui nous conduira jusqu'à la deuxième guerre juive en 135 après Jésus-Christ. Durant ces 200 ans, le pouvoir romain se fera de plus en plus oppressant, faisant face d'abord aux dernières prétentions royales des descendants asmonéens, puis à des rébellions et des guerres d'indépendance de plus en plus vives. Le judaïsme est toujours composé des principaux courants sadducéens et pharisiens auxquels on peut ajouter celui des esséniens. Je vous renvoie à l'épisode 312 sur l'émergence des groupes religieux. Ces trois courants ne résument pas à eux seuls la réalité religieuse, qui est aussi celle des croyances et de la foi populaire, comme aussi celle des prétentions messianiques et eschatologiques qui surgissent, ça et là, en cette période romaine. On peut penser entre autres au courant de Jean le Baptiste ou à celui de Jésus de Nazareth. Je n'évoquerai que très peu ces deux groupes pour privilégier un regard plus global sur la Judée. Un autre volet historique leur sera consacré. D'autres groupes, plus violents aux revendications politiques et nationalistes, vont aussi voir le jour à cette période comme les Sicaires ou Zélotes. La multiplicité de ces groupuscules nationalistes aux accents eschatologiques ou messianiques est une des caractéristiques de cette époque romaine qui commence avec la fin des règnes asmonéens et l'avènement d'Hérode le Grand. L'étude de cette période se base sur beaucoup moins de sources que les précédentes. Nombre d'éléments historiques nous parviennent de Philon d'Alexandrie et surtout de Flavius Joseph avec les Antiquités judaïques et dans son autre ouvrage « Les guerres des Juifs contre les Romains », l'historiographe détaille plus particulièrement la première guerre juive puisqu'il fut l'un des acteurs de la résistance avant de se placer, après la défaite, sous la protection de Titus. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce personnage. La plume de Flavius Joseph se contredit parfois entre ses œuvres et favorise la posture romaine, et demande donc un regard critique de l'historien, d'autant que nous ne possédons pas l'œuvre initiale de Flavius, mais des réécritures plus tardives et parfois arrangées. Hélas, l'œuvre de Flavius Joseph, décédée en l'an 100, s'arrête avec la prise de Massada en 74. Par la suite, les historiens disposent de matériaux provenant de sources plus tardives, comme Tacite, Dion Cassius ou Eusèbe de Césarée, sans compter les sources rabbiniques. Les découvertes archéologiques en Judée et à Jérusalem aideront à éclairer les années entre la première guerre juive jusqu'à la fin de la Judée romaine en 135. Vous pouvez consulter ces éléments à partir de la bibliographie en notes de cet épisode et sur le site où vous trouverez aussi des cartes géographiques ainsi qu'un tableau chronologique des principaux événements. Avant de commencer, j'aimerais faire un point sur les réalités géopolitiques nouvelles que nous allons évoquer régulièrement. Il s'agit d'abord des Iduméens. À l'origine, il s'agit d'une population transjordanienne située au pays d'Édom, au sud de la mer Morte, qui vont, suite à des incursions arabes, s'installer dans la région du Négev vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils y développent la ville de Maresha. Soumis au royaume séleucide, ils vont profiter de l'influence hellénistique et ce n'est qu'en 125 avant notre ère que le roi asmonéen Jean Hyrcan Ier les soumet à son pouvoir et les intègre au judaïsme de Judée. Parallèlement, une autre force politique apparaît dans la région, les Nabatéens. Là aussi, il s'agit à l'origine de tribus nomades situées en Arabie. On trouve leurs traces à la période perse à l'occasion de transactions commerciales avec la cité de Gaza. Vers le 6e siècle avant notre ère, les Nabatéens s'installent au sud de la mer Morte et en Transjordanie. Leur source de revenus provient principalement des échanges commerciaux. Cette richesse leur permet de constituer au 3e siècle avant notre ère un véritable royaume avec sa capitale, Petra. Leur force leur permet de résister aux assauts des rois séleucides et même d'étendre leur influence jusqu'à Damas et au Yémen. Avec l'arrivée de Pompée et ses armées dans la région, les Nabatéens deviennent un royaume client de Rome, tout comme la Judée, son allié. Mais ils gardent une certaine autonomie. C'est avec leur roi, Arétas IV, dont nous reparlerons, que le royaume des Nabatéens atteindra son apogée. Cette parenthèse étant dite, nous pouvons commencer l'approche de cette période en nous rappelant le contexte de l'intervention romaine en Judée. La période romaine débute avec l'intervention de Pompée en 63 avant Jésus-Christ au sein d'un conflit opposant deux prétendants au trône de Judée, Jean Hyrcan II et son frère Aristobule II, descendant des Maccabées qu'on appelle aussi la famille Asmonéenne. Quelques années plus tôt, en 67, à la mort de leur mère, la reine de Judée, Salomé Alexandra, Hyrcan ou Jean Hyrcan, déjà nommé grand prêtre, a reçu le titre de roi de Judée. Mais le fils cadet, Aristobule, chargé des armées judéennes, ne l'entend pas ainsi. Ce désaccord peut provenir d'ambitions personnelles, mais correspond aussi à une certaine vision politique portée déjà par sa mère, souhaitant, conformément aux vœux des pharisiens, séparer la charge de grand prêtre du titre royal. On se souvient que l'appropriation des deux fonctions par Aristobule Ier, leur grand-père, et Alexandre Jeannet, leur père, avait suscité de violentes contestations que la reine Salomé Alexandra réussit à calmer en distinguant les deux fonctions. Aussi, l'appropriation du titre royal par le grand prêtre Hyrcan II a pu réveiller la défiance d'une partie du peuple tout en aidant les ambitions d'Aristobule. La division entre les frères reflète aussi l'opposition religieuse entre pharisiens, partisans d'Hyrcan, et sadducéens, partisans d'Aristobule. 3 mois après la prise de fonction par son frère, en 67, et fort de son influence auprès de l'armée judéenne, Aristobule soulève des soldats et affronte ceux de son frère lors d'une bataille à Jéricho, dont il ressort victorieux. Aristobule monte alors à Jérusalem. Craignant la vengeance de son frère cadet, Jean Hyrcan se réfugie dans la citadelle du temple de Jérusalem, détenant en otage la famille d'Aristobule. Les deux prétendants au trône finissent par un accord. Jean Hyrcan cède le titre de roi à son frère et gardera celui de grand prêtre. Pour ajouter à l'alliance entre les frères, le fils d'Aristobule, Jonathan Alexandre, épousera une fille de Jean Hyrcan, Alexandra. Au final, Aristobule II sort donc vainqueur de l'affrontement. Du moins pour l'instant, car Jean Hyrcan va bénéficier du soutien d'un certain Antipater, qui va tout faire pour redonner au grand prêtre son titre de roi. Né en 113 avant Jésus-Christ, Antipater est un Iduméen, une région intégrée à la Judée et convertie au judaïsme, pour des motifs d'abord politiques, sous Jean Hyrcan Ier en 125 avant Jésus-Christ. Antipater a succédé à son père comme gouverneur d'Idumée et a épousé une princesse nabatéenne, Cypros, avec laquelle il aura 4 enfants, Phasaël, Hérode, Salomé et Phéroas. Antipater est un conseiller très influent auprès de Jean Hyrcan II. D'autres diront que le grand prêtre et ancien roi est un homme influençable dont Antipater va pouvoir se servir. Flavius Joseph souligne aussi l'inimitié et la haine, voire la jalousie, qui oppose Aristobule à Antipater. Quoi qu'il en soit, le gouverneur iduméen, disposant de ses propres troupes, conseille à Jean Hyrcan de renier son accord avec son frère Aristobule pour reprendre son titre de roi. Les deux hommes se réfugient alors à Pétra, capitale du royaume nabatéen. Antipater, qui par son épouse possède des liens avec la cour nabatéenne, convainc le roi Arétas III de l'aider dans sa reconquête pour Jean Hyrcan. En échange d'un soutien militaire, Antipater négocie la restitution de 12 cités prises par Alexandre Jeannet aux Nabatéens. En 65, Antipater, Arétas III et ses armées nabatéennes, fortes de 50 000 hommes, selon Flavius Joseph, attaque victorieusement les armées d'Aristobule. Durant la Pâque de l'an 64, Jérusalem est assiégée. Mais la situation s'embourbe et les deux clans ont besoin de soutien. Sans concertation, Hyrcan et Aristobule font appel à la République de Rome. Les liens diplomatiques avec celle-ci datent de l'époque maccabéenne. Jusque-là, Rome n'était pas encore intervenue militairement pour aider ses alliés. Mais la situation est différente. Depuis 66, la République de Rome a chargé le général Pompée de pacifier, par la force bien entendu, les territoires du Levant rongés par les guerres des successions séleucides et surtout les flottes de pirates qui nuisent au commerce et à l'économie de la région. L'opération vise à soumettre ou conquérir des territoires. En 64, Pompée avait déjà annexé la Syrie et campe alors à Damas. Durant les conflits qui opposent Hyrcane et Aristobule, une autre délégation juive arrive également à Rome et demande la fin du règne des deux Asmonéens au profit d'une tutelle romaine, laissant le temple gérer les affaires internes. Le général romain se tourne d'abord favorablement vers Aristobule, roi déjà en place. Ses armées se dirigent vers Jérusalem et réussissent à lever le siège de la ville. Les armées nabatéennes quittent alors la cité et retournent à Philadelphie. Cependant, si Rome permet à Aristobule de se maintenir, ce dernier ne voit pas d'un bon œil la présence romaine qui nuit à ses ambitions de pouvoir. Pas question pour lui de négocier, et Aristobule s'oppose militairement à Pompée et tente de le repousser. Aristobule tient ses forteresses. Pompée arrive pourtant jusqu'à Jérusalem, qu'il assiège durant 3 mois. En cette année 63, le général romain entre alors dans la ville et pénètre jusqu'au sein des saints du temple, la partie la plus sacrée, dont l'entrée est réservée au seul grand prêtre une fois l'an. Pompée ne pille pas le temple et demandera à ce que les prêtres procèdent à la purification après son passage. Aristobule II est arrêté et envoyé en captivité à Rome avec ses fils Alexandre et Antigone, ainsi que de nombreux judéens parmi ses partisans qui seront à l'origine de l'importante diaspora juive de Rome. Après la victoire de Pompée, Rome permet à Jean Hyrcane de revenir dans la ville pour reprendre son titre de grand prêtre. Cependant, les autorités romaines l'obligent à renoncer à son titre de roi pour prendre celui d'ethnarque. L'ancien royaume asmonéen est désormais aux mains de Rome, qui lui retire ses territoires côtiers ainsi que la Décapole. La Judée devient un royaume client, vassal de la République romaine. Pour en assurer la gestion, Antipater est nommé gouverneur de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, de la Pérée et de l'Idumée. La Judée de Jean Hyrcane II se trouve désormais considérablement réduite après le redécoupage de Pompée. Hyrcane et Antipater conservent la Judée, la Galilée, le territoire samaritain à l'exception de la ville de Samarie, la Pérée et l'Idumée. Avec la Décapole et les villes côtières, Rome manifeste son souhait de développer les implantations romaines et la culture grecque dans ses cités. Pour autant, les prétentions royales d'Aristobule, le frère de Jean Hyrcane, demeurent. En 57, il parviendra à s'échapper avec Alexandre son fils de sa captivité romaine. Ils seront repris avant d'avoir pu soulever la Judée grâce à l'intervention du serviteur de Syrie Gabinius. Les armées de Rome continueront à poursuivre les partisans d'Aristobule. En 54, ils détruiront la ville de Tarichae sur les bords du lac de Tibériade que certains identifient à Magdala. Revenons à l'année 63 avant notre ère. Pompée, l'homme fort et influent de la puissante Rome, voit poindre les ambitions d'un certain Caius Julius César, qui vient de se faire élire grand pontife, Pontifex Maximum, la charge religieuse la plus élevée de la République romaine. En 61, après avoir étendu à l'Orient la puissance de Rome et sa victoire sur le roi Mithridate VI du Bosphore, Pompée revient dans la capitale romaine. Cependant, le Sénat, miné par des rivalités politiques, refuse de ratifier les accords diplomatiques de Pompée obtenus en Orient, mais aussi l'obtention de terres pour ses vétérans. Il s'allie donc alors avec Crassus et César pour former ce premier triumvirat afin de contrer le pouvoir de l'aristocratie sénatoriale. Ce triumvirat oblige le Sénat à accepter les conditions de Pompée. Mais en l'an 53, cette entente prend fin avec la mort de Crassus contre les Parthes et la mort de Julia, fille de César et épouse de Pompée. Décès qui amène la brouille entre les deux hommes et bientôt leur affrontement. Car César est en Gaule et Pompée reste maître de Rome jusqu'au retour de César, qui en 49 franchit le Rubicon. Une guerre civile éclate entre les deux hommes et après une défaite en Macédoine, Pompée trouve refuge en Égypte. De son côté, en Judée, Antipater soutient les forces de Pompée. Pendant ce temps, à Rome, toujours en l'an 49, César libère Aristobule et ses fils et les envoie en Syrie, accompagnés de 2 légions afin d'empêcher Pompée d'immobiliser ses troupes. Mais les partisans de ce dernier mettront fin à ce projet en empoisonnant Aristobule. Son fils Alexandre est fait prisonnier à Antioche, où il sera décapité sous l'ordre de Pompée. Ne reste en vie que le second fils d'Aristobule, Antigone Mattathias, réfugié à Rome. En septembre 48, le conflit opposant César à Pompée se terminera avec la mort de ce dernier, exécuté par Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre. Antipater et Hyrcane, qui ont été un soutien à Pompée, pourraient craindre une disgrâce. Cependant, au lieu de prendre le parti du descendant d'Aristobule, l'ancien allié de César, ce dernier confirme Hyrcane et Antipater dans leurs prérogatives. César reverse à Hyrcane les villes de Jopé et la plaine de Yisraël, sans pour autant mettre fin ou réduire le versement du lourd tribut versé à Rome. Avec la victoire de César, Antipater obtient le titre d'intendant, épitropos de la région. Il soutient les troupes de César présentes en Égypte et nomme ses 2 fils au commandement militaire de la Judée pour Phasaël et de la Galilée pour Hérode. Ce dernier pourchasse et élimine un certain Ézéchias, chef de bande. Pour Flavius Joseph, Ézéchias avait pris la tête d'une troupe de brigands. Il pourrait s'agir de paysans en révolte contre les expropriations romaines ou d'un groupe armé toujours fidèle au clan asmonéen d'Antigone Mattathias. Quoi qu'il en soit, à la suite de cette opération, Hérode est nommé l'année suivante, en 47, gouverneur de Galilée. La région va être à nouveau perturbée lorsque Jules César, qui projetait de recevoir les pleins pouvoirs, est assassiné en mars 44. Succède alors un second triumvirat composé de Marc-Antoine, de Lépide et d'Octave, le futur empereur Auguste. Ils poursuivent les leaders du complot mortel contre César, Brutus en Grèce et Cassius réfugié en Syrie. Ce dernier y trouve les soutiens d'Antipater et ses fils. Cependant, l'année suivante, Antipater meurt empoisonné par un officier judéen, Malchios. En l'an 42, les armées d'Octave et de Marc-Antoine battent celles de Brutus et de Cassius lors de la bataille de Philippe. La période est difficile pour les fils d'Antipater. Des troubles ont lieu en Judée tandis que le souverain de Tyr, Marion, occupe une partie de la Galilée. La crise s'aggrave quand une délégation de Jérusalémites est envoyée à Marc-Antoine accusant les 2 fils d'Antipater de mauvaise gestion. Cependant, Hérode les prend de vitesse et offre à Marc-Antoine une forte somme, réduisant ses oppositions au silence. Bien plus, Hérode et Phasaël sont promus respectivement tétrarques de Judée et de Galilée. 2 ans plus tard, en 40, les troupes partent, menacent la puissance romaine. Elles parviennent jusqu'en Syrie. Le prétendant au trône de Jérusalem, Antigone Mattathias, le neveu de Jean Hyrcane, trouve en eux des alliés qui vont lui permettre, en échange d'un lourd tribut, de conquérir la Judée. Après avoir été repoussé par Hérode, Antigone parvient à son but. La famille d'Hérode est mise à l'abri dans la haute forteresse de Massada, tandis qu'il cherche en vain un soutien auprès des Nabatéens. Il finira par trouver refuge à Rome. L'armée d'Antigone parvient à s'emparer de Phasaël, qui préférera se suicider. Antigone mutile son oncle Jean Hyrcane en lui coupant l'oreille, mutilation qui lui interdit, selon la Torah, d'exercer sa charge de grand prêtre. Il est alors exilé en Mésopotamie, occupé par les Parthes. En cette année 40 avant Jésus-Christ, Antigone Mattathias prend le titre de grand prêtre et se fait proclamer roi, vassal de l'Empire Parthe. Hérode, réfugié à Rome, obtient le soutien du Sénat qui voit en lui un allié solide face à la menace parthe. Aussi, la même année, le Sénat romain confère à Hérode le titre de « roi de Judée ». Quelques années plus tard, il répudiera sa première femme Doris pour épouser la fille de Jean Hyrcane, Marianne, l'asmonéenne, afin de mieux légitimer son titre. Mais pour qu'il soit effectif, Hérode doit d'abord conquérir son royaume à l'aide des légions de Marc-Antoine. Durant 3 années, il reprendra peu à peu son territoire en commençant par le littoral, puis l'Idumée de son père, la Samarie et la Galilée. En l'an 37, il assiège Jérusalem. Les armées romaines entrent dans la ville et Hérode empêche de peu le pillage de la cité par les soldats. Antigone Mattathias sera le dernier roi et grand prêtre asmonéen. Il est envoyé captif à Antioche et sera décapité par Antoine à la demande d'Hérode. Ce dernier peut alors se faire proclamer roi des Juifs à Jérusalem et régner sur la Judée et les territoires environnants. Avec l'intervention de Pompée en 63 pour régler le conflit entre les prétendants asmonéens au trône de Jérusalem, la Judée passe sous la tutelle de Rome. Le pays est embarqué dans les conflits qui minent la République romaine, depuis le premier triumvirat, la guerre entre Pompée et César, jusqu'au deuxième triumvirat. Il faut reconnaître, dans ces jeux latins du pouvoir, qu'Antipater et Hérode, en cela digne fils de son père, apparaissent comme d'excellents stratèges et fins diplomates. D'abord toujours aux côtés du perdant, Pompée ou Cassius, ils finissent par obtenir les bonnes grâces du vainqueur, César ou Marc-Antoine. De fait, Antipater, puis Hérode, représentent pour cette Rome qui craint les avancées parthes des alliés sûrs et fidèles. La mainmise de Rome sur ces territoires du Levant va également de pair avec l'influence de plus en plus grande de la famille d'Antipater. La fin des grands prêtres et des rois asmonéens laisse place à la dynastie hérodienne. À la tête de la Judée et ses environs règne sur Jérusalem un roi iduméen, considéré comme un demi-juif, proche de Rome et baigné de culture grecque. Hérode est le premier d'une dynastie qui devra elle aussi s'effacer devant l'emprise croissante de l'Empire romain. Bref, l'intervention de Rome redessine entièrement la carte géopolitique de la région avec une présence romaine en Judée qui va devenir de plus en plus significative. Le trône de Jérusalem, surveillé de près par Rome, confié aux Iduméens, une pression fiscale qui va également s'accroître, sans oublier le titre de grand prêtre qui, plus tard, sera confié à d'autres familles sacerdotales selon le bon vouloir des responsables politiques. De quoi faire regretter à certains les grandes heures de l'ancien royaume d'Israël ou de la résistance maccabéenne. De quoi faire espérer à certains l'avènement d'un Messie pour rétablir le royaume. Pour l'instant, après les violents conflits qui ont opposé le clan asmonéen, l'heure est à la reconstruction. Ce sera l'une des premières et plus grandes tâches du nouveau roi, Hérode Ier le Grand. Ce dernier va en effet marquer l'histoire de la Judée en raison de sa politique de grands travaux, notamment en faveur du Temple, comme aussi à cause de sa réputation de roi tyrannique, violent et paranoïaque. C'est, entre autres, ce que nous entendrons avec la suite de cette série. Je profite de ce premier épisode pour remercier à nouveau les contributeurs réguliers qui permettent la diffusion de cette série, Nathalie, Anne, Guillaume, Héloïse, Cathy et Vincent, sans oublier Jean-Noël. Si vous aussi vous souhaitez aider au fonctionnement de ce podcast, y compris ponctuellement, vous pouvez vous rendre sur le lien en notes qui vous redirigera vers la plateforme de votre choix, Tipeee ou Ko-fi. Je rappelle surtout qu'un des meilleurs moyens pour soutenir ce podcast reste de le faire connaître autour de vous et sur vos réseaux. Une dernière chose, au moment de cette diffusion en avril 2024, je vous invite à répondre au questionnaire sur le format et l'avenir des transcriptions téléchargeables. Le lien est également en note. Bien sûr, la pertinence du sondage dépend du nombre de réponses et je compte sur vous. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large biblique.
Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.